quand tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher.
On n'est pas des cadeaux, l'émission Transpédéguine est féministe.
On n'est pas hétérosexuel. On le devient pas toujours.
Le genre, ça se construit, le corps aussi.
L'herbe, l'âme, transpédéguine.
On n'est pas des cadeaux.
Une émission transpédéguine et féministe.
Rêve de princesse, vie de cauchemar.
On n'est pas des cadeaux.
Une émission transpédéguine et féministe.
Sur Radio Canu.
La plus des radios.
La plus rebelle des radios.
Votre hétérosexisme n'a fait que nourrir notre rage. Votre haine n'a fait qu'embellir nos amours. Aujourd'hui plus que jamais, nous ne voulons ni de votre sexualité bénitier, ni de votre normalité, ni de votre ennui, ni de votre aliénation, ni de votre intégration dans ce système patriarcal capitaliste raciste, nourri de la domination des unes sur les autres.
Une émission Transpédéguine.
Ouais, surtout Transpédéguine.
Bonjour.
Salut.
Alors, bienvenue dans l'émission On n'est pas des cadeaux.
L'émission Transpédéguine féministe sur Radio Canu.
Et aujourd'hui, on va parler du coming out. Mais tout de suite, on attaque les infos.
Voilà.
Les infos.
C'est à vous qu'on aime une fille ou un gars. Cela ne vous regarde pas. Il faudra vous faire une raison de la chose. Nous ne portons plus le triangle rose.
Enfin, les informations, quoi.
Alors, on commence d'abord par une information qui nous vient d'Angleterre. Alors, le gouvernement a commandé un rapport indépendant sur la réglementation des contenus télévisuels que pourrait soutenir le Premier ministre David Cameron. Et selon certains journaux, le rapport proposerait d'interdire les baisers homo avant 21h avec l'argument de protéger les jeunes téléspectateurs. Donc, si la décision était prise, les soaps, donc c'est des sortes de sitcoms très importants à la télé britannique, devraient revoir leur scénario. Les quatre principaux soaps, Coronation Street, EastEnders, Emmerdale et Hollyoaks, ont tous des personnages et des couples homo dans leur scénario.
Alors, en Italie, c'est le feuilleton Ikea, là. Alors, c'est une pub d'Ikea qui est critiquée par le ministre de la famille italien. Alors, c'est une pub, en fait, pour l'ouverture du nouveau magasin en Sicile dans la presse, avec deux hommes qui se donnent la main de dos et le slogan « Nous sommes ouverts à toutes les familles ». Oh là là, c'est beau la tolérance. Et du coup, le sous-secrétaire d'État italien à la famille, il dit que ce terme « famille » s'oppose à la Constitution qui dit que la famille est une union naturelle fondée sur le mariage. Et il est employé dans cette publicité pour faire polémique avec la famille traditionnelle considérée comme datée et rétrograde. Donc, il juge grave et de mauvais goût qu'une multinationale suédoise vienne en Italie et dise aux Italiens ce qu'ils doivent penser en polémiquant contre leur constitution. Voilà, et donc il reproche à IKEA d'attaquer la constitution italienne avec une telle violence, blablabla. Enfin bon, c'est pas que IKEA sont... Enfin, je veux dire, ça reste une entreprise merdique, hein, mais... en tout cas, ça arrive quand même à choquer... Voilà.
Et puis c'est vachement basé sur ce truc en fait, comme s'il n'y avait pas de transpédéguine en Italie, ouais. Qu'il fallait qu'une entreprise suédoise vienne genre les pervertir les Italiens et les Italiennes. Quoi.
Ça se débrouille bien. Et une autre info, c'est en Italie cette fois, c'est, en fait c'est une histoire qui commence en juillet 2007. Il y avait deux garçons, Michele, je crois, Michel et Roberto, qui sont embrassés sur la place du Colisée. Donc le Colisée, c'est à Rome, au bout de la rue Gay, enfin la rue du quartier Gay à Rome. Et il y a des carabiniers, des policiers qui sont passés à ce moment-là, qui les ont accusés d'actes, je cite, « contraires à la décence publique ». Alors, en fait, les deux mecs, là, ils parlent juste d'un baiser un peu fougueux sur les lèvres et la poitrine, mais rien de plus. Et les flics, plutôt, ils ont... Ils les ont accusés, du coup, ils les poursuivent. Alors, ils se défendent de toute discrimination. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne sont pas intervenus à cause d'un baiser parce qu'ils ont surpris deux garçons ensemble. mais parce qu'ils les ont surpris dans un rapport sexuel oral. Et dans leur rapport, ils précisent que les interpellés avaient leurs pantalons et leurs sous-vêtements baissés. Et en fait, on s'en fout, mais juste, bah, du coup, pendant le procès, donc c'était le 4 mai, il y a deux semaines, la semaine dernière. Donc ils étaient poursuivis pour des actes obscènes. Et Roberto, l'un des deux, il a répondu que, enfin, il a rappelé en fait qu'il était incapable de caresses qui, enfin, desquelles il était accusé, quoi, parce qu'il a dit, je cite, je venais de subir une opération chirurgicale, je portais une gaine élastique autour des parties intimes qui m'empêchait d'avoir des rapports sexuels d'aucune sorte. Et du coup, je trouve que ça ressemble un peu aux accusations de racolage, le truc qu'on est obligé de trouver des trucs énormes pour dire on n'a pas le droit d'exister publiquement, quoi, alors qu'en fait, ben, ils étaient dans la rue, ils se roulaient des pelles. Et du coup, ils ont quand même été condamnés à 2 mois de prison. La peine a été convertie à une amende de 2 280 €. Ouh. Et voilà, ils ont fait appel. Pour l'instant, on verra.
Ah, dégueu.
Ah, ça coûte cher.
C'est clair. D'être public, justement.
Et moi, j'ai une info assez succincte parce qu'on n'a pas énormément en fait, d'informations plus précises. Et puis... Mais c'est sur l'Ouganda. En ce moment, il y a une mobilisation des militantes LGBT en Ouganda contre un projet de loi contre l'homosexualité. Et en fait, c'est un projet de loi qui avait déjà été proposé en 2009. Et en gros, dans ce projet de loi, il y a un truc de 3 ans d'emprisonnement pour les gens qui auraient connaissance de publications homosexuelles ou qui feraient la promotion de l'homosexualité. 7 ans d'emprisonnement pour les personnes associatives LGBT. Et puis aussi un truc qui irait vers la peine de mort pour des homosexuels séropositifs pour homosexualité aggravée. Et du coup, ce projet de loi, il était débattu mercredi, et au final, c'est, pour l'instant, ça tombe à l'eau, et on n'en sait pas plus pour le moment. Voilà.
Le comportement homosexuel est évidemment une menace pour l'humanité. Une menace pour l'humanité.
Reportage. Alors,
eh ben, donc c'est une émission sur le coming out que vous allez écouter aujourd'hui. Et du coup, en introduction, on avait envie de définir d'abord c'est quoi le coming out.
Alors, le coming out ou coming out the closet, c'est sortir du placard. Et donc, c'est défini comme une annonce volontaire d'une orientation sexuelle ou d'une identité de genre dans un ou plusieurs milieux, famille, proche, éloigné, amis, travail, voisins, voisines, etc.
Et il se trouve qu'il y a aussi un deuxième sens qu'on peut comprendre à coming out, que souvent les gens comprennent à coming out, c'est aussi le moment où on se révèle à soi-même, qu'on se révèle trans, PD ou Gwyn à soi-même. C'est aussi nommé comme le coming out souvent.
Alors nous, dans cette émission, on voulait parler de devenir trans, PD, Gwyn, enfin parler sur le fait de devenir trans, PD, Gwyn publiquement dans un monde hétéronormé.
Alors, hétéronormé, ça veut dire qu'en fait, on vit dans un monde où il y a le présupposé que tout le monde est hétérosexuel et bio. Donc, alors, du coup, bio...
Une petite définition de bio. Voilà. Bio, ça voudrait dire, en gros, vraiment, en gros, que l'identité de genre... Enfin, c'est des personnes dont l'identité de genre colle ou va avec le corps biologique, on va dire.
Ok.
C'est-à-dire, si, plus imagé, eh ben... du coup, si tu es née fille, tu as une identité de genre qui est fille. Du coup, ça correspond. Et tu es bio. Et sinon, tu es trans.
Voilà. Exactement. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire vivre dans un monde hétéronormé? Bah, ça veut dire que les hétéros, eux, ils n'ont pas à faire leur coming out. Puisque eux, ils sont normaux. Voilà. Et du coup, faire son coming out, ça veut dire être vu différemment et avoir une autre réalité sociale que les hétéros. Et du coup, ce moment où on sort du placard, c'est le moment où on passe de ce statut d'hétéro présupposé à ce statut de déviante.
Et en fait, on voulait aussi rappeler que le coming out, c'est pas juste une question de le faire une fois. C'est pas genre ça y est. Même si à un moment donné, effectivement, c'est se révéler à soi-même et c'est le dire, c'est quelque chose qu'on fait toute la vie, c'est un acte quotidien. Que ce soit parce que c'est écrit sur notre gueule, que ce soit parce qu'on est obligé de le répéter des milliers de fois parce que justement c'est pas écrit sur notre gueule. En tout cas, c'est quelque chose qu'on est obligé, ou en tout cas qu'on va faire
puis on rencontre des nouveaux gens tous les jours aussi.
C'est ça.
Sur le coming out, je pense qu'on n'est pas les seuls à en dire quelque chose. Et c'est quand même un thème qui est souvent utilisé, parlé par d'autres, par les LGBT par exemple. Et du coup, nous, on voulait dire d'où on parle quand on parle de coming out. Et d'où on parle, c'est que, en fait, on est des transpédéguines radicales et on refuse l'intégration dans la société hétéro-patriarcapitaliste raciste.
Et aussi parce qu'on ne croit pas qu'il puisse y avoir une quelconque égalité entre des classes opprimées et des classes dominantes.
Voilà, parce qu'on a l'impression qu'en fait les LGBT sont vachement dans ce truc-là de penser que juste parce qu'ils auront les mêmes droits que les hétéros, ils seront égaux. Et en fait, ce qui se voit avec l'amélioration des lois pour les lesbiennes et les gays... non, cette société, c'est que en fait ça supprime pas ces rapports d'inégalité au quotidien.
C'est pour ça que, pour nous, le coming out, il est politique. Et notamment, la visibilité, en fait, c'est pas qu'une démarche personnelle, c'est également une démarche politique, dans le sens où elle oblige une société à ne pouvoir ignorer l'existence d'individus déviantes. Et on vous propose une petite citation.
Voilà, du QAnation Manifesto, qui existe en français, et qui est sur infocus.net, si vous voulez le voir en entier. Et du coup, ça dit... toutes celles et ceux qui affirment que faire son coming out ne fait pas partie de la révolution n'ont rien compris. Les images sexuelles positives et ce qu'elles engendrent sauvent des vies parce qu'elles affirment ces vies et créent la possibilité pour les gens d'essayer de vivre une vie d'amour propre au lieu d'une vie de haine de soi.
Voilà, et justement, pour rebondir, je trouve que être visible, ça rend aussi possible le fait d'être trans, pédéguine pour d'autres personnes qui se sentent plus isolées ou pour qui c'est plus compliqué ou juste à un moment donné qui sont en questionnement. Et que du coup, c'est un vrai acte aussi de solidarité à un moment donné de dire « Ok, faire de la visibilité, c'est aussi permettre à d'autres personnes de pouvoir sortir du placard ou juste arriver à se poser des questions et avancer dans leur vie. »
Voilà, mais évidemment, on comprend que c'est pas possible pour tout le monde d'être visible tout le temps, parce que on est dans un monde hostile et que ça peut être dangereux en fait d'être visible. On n'est pas en train d'ordonner à tout le monde de sortir du placard ou de vouloir faire culpabiliser les gens qui sont encore dans le placard de pas sortir du placard parce que ce serait pas solidaire ou un truc comme ça. Donc du coup, genre, on voulait rectifier que c'est vraiment pas ça notre propos. Qu'on sait. On le sait tellement en fait, bien que plein de gens, même pas forcément nous, mais plein d'autres gens sont dans des situations beaucoup trop précaires pour sortir du placard et être publiquement transpédéguine. Et que évidemment, on valide toutes les stratégies de survie des transpédéguines, quelles qu'elles soient.
Et aussi, c'était aussi. Une façon de dire que c'est pas pour rien qu'il y a des espaces transpédéguines et des amitiés entre transpédéguines, c'est qu'aussi ces espaces et ces relations, c'est des endroits où on y puise de la force et où nos réalités sociales, elles sont en tout cas plus prises en compte et que voilà, ces espaces continueront de toute manière d'exister.
Et du coup, on voulait terminer cette introduction en faisant une dédicace pleine d'amour et de solidarité, particulièrement à toutes celles et tous ceux qui sont encore dans le placard et qui peuvent pas en sortir ou alors qui sont en questionnement. Et on a envie de leur dire que, ben, en fait, on est nombreuses et qu'on est là et qu'on espère se bouger le plus possible pour créer ces espaces justement où ils et elles peuvent être eux-mêmes et trouver de la force. Et voilà, du coup ça c'est l'introduction. Et évidemment, nous dans cette émission, on a fait nos coming out et tout ça, et on trouve ça cool d'en parler. Mais on voulait avoir un peu un panel plus large, quoi. Du coup, on a interviewé des gwyn et des trans sur leur coming out. Et du coup, on en a fait un petit montage qui dure 10 minutes et qu'on vous propose d'écouter.
Coming out, et du coup on avait envie que nos amis nous racontent un peu des anecdotes qu'ils ont vécues quand ils ont fait leur coming out. C'est un peu au pluriel parce qu'on le fait un peu tout le temps, et du coup de savoir comment ça s'était passé, alors avec des potes, avec la famille, avec enfin voilà.
Alors moi là, ce qui me vient en tête le peu comme ça, c'est des anecdotes avec ma mère. Je sais pas, moi, je peux raconter divers trucs qu'elle m'a dit que sur le moment c'était pas très drôle, mais après, je trouve ça assez drôle quand même. Du coup, quand j'ai annoncé ma transition à ma mère, un des trucs qu'elle m'a dit, elle m'a dit oui, mais si tu veux être un vrai homme, faut que t'ailles te battre en Afghanistan pour les enfants qui n'ont rien. Elle m'a dit, je pensais que la pire chose que tu pourrais me faire serait toucher le RMI, mais non, je me suis trompé. Alors après, je voulais me faire un t-shirt pire que le RMI transitionné, bref. Je pense que dans mes amis, il y a eu des réactions, des gens qui n'ont rien dit et qui ont... Voilà, où ça s'est bien passé, et d'autres personnes qui étaient plus dans un truc, mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu vas rester une gouine, machin, pourquoi, je comprends pas, mais après tu vas devenir con si tu prends de la testo, blablabla. Bon, ça c'est pas très, pas très original, je pense que ça arrive beaucoup... Les trucs de transition. Ma mère qui avait fait quand même divers autres trucs, elle a commencé par du chantage au suicide, et ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle voulait porter plainte contre les médecins qui m'avaient filé des hormones. Ensuite, elle voulait porter plainte contre moi pour violence psychologique. Elle me disait qu'elle avait un certificat médical, parce qu'elle avait un ulcère qui s'était réouvert, du coup, elle avait des preuves. Je sais pas si elle allait voir un avocat, mais je pense qu'ils ont dû se foutre de sa gueule. Voilà, elle m'a dit que c'était pire que la prison, pire que le suicide, parce qu'au moins, elle pourrait faire le deuil de sa fille et que là, elle saurait que je serais vivant quelque part dans ce monde. Enfin, bref. Ah oui, et puis quand elle me disait « Ah, mais tu vas être un homme, c'est dégueulasse », et que j'ai vaguement tenté de lui expliquer que j'avais pas envie de devenir un homme, en me disant peut-être que ça allait la rassurer ou je sais pas. Et du coup, elle m'a juste dit « Ah, ni homme ni femme, mais c'est dégueulasse ». Et moi, j'avais juste envie de dire « Ni homme ni femme, transpédéguine, quoi ». Bon, elle aurait pas trop compris.
Alors, moi, une anecdote que je peux raconter, c'est, je pense, j'avais plus que 20 ans, peut-être 22 ans, un truc comme ça, et je me suis dit que j'allais faire de la visibilité un peu chez mon père, et il y avait... sa copine qui était là, alors je parlais de ma copine et comment c'était cool, et elle m'a regardé d'un regard compatissant en m'expliquant que c'était pas grave, que ça arrivait à tout le monde de tomber amoureuse de ses amis à un moment, mais que ça allait passer et que fallait pas que je m'inquiète, et j'ai halluciné parce que j'en parlais vraiment comme un truc où j'étais trop contente et c'était cool ce qui m'arrivait dans la vie et tout ça, et elle m'a vraiment... Oui, rassurée, quoi. C'était très bizarre. Alors, je lui ai répondu que j'espérais pas que ça change, que j'étais très contente comme ça et que je préférais que ça continue longtemps. Et puis, je pense que ça a fait un espèce de silence chelou, puis on a dû changer de sujet.
Ma tante, c'est ma personne, enfin, la personne la plus proche de ma famille. J'avais quasiment jamais ramené personne chez elle, et une fois, j'ai ramené une nana. En l'appelant juste par son prénom, tu vois, et on allait 3 semaines en vacances avec elle et ses enfants. Enfin, bon, donc ça, voilà, j'en parlais comme ça, et j'avais cru qu'elle avait compris, parce qu'à partir de ce moment-là, elle a parlé d'elle en disant ta copine. J'allais la voir, qu'est-ce que tu fais ? Je vais voir ma copine. Ah bon, comment elle va ta copine ? Comment vont ses enfants ? Donc un truc où moi j'avais l'impression que c'était passé comme dans du beurre, comme ça, là. Et puis. Un an après, je sais pas, on en reparle avec elle, elle me dit « Ah, comment va cette meuf et tout, et ses enfants ?» Et je dis « Bah, les enfants, c'est un petit peu dur parce qu'ils ont du mal à accepter que leurs parents aient des nouveaux partenaires et tout. » Et elle me dit « Mais machine, elle a quelqu'un ?» Je dis « Bah, moi ?» Elle me dit « Oui, mais non, mais je veux dire... » Je lui dis « Bah non, mais moi ?» Enfin, je croyais que t'avais compris. Elle me regarde, me fait « Ah bon, tu en veux du fromage ?» Et voilà. Et cette même tante, il y a pas longtemps, je lui ai dit, j'avais quelqu'un qui venait me voir chez elle, et du coup je lui ai dit bah en fait, je t'avais dit que j'avais une copine qui venait, mais en fait il veut qu'on parle de lui au masculin, et elle m'a dit ah ok, il arrive à quelle heure? Et elle passe ses journées à regarder TF1, quoi. Enfin voilà.
Alors moi je pense que ma famille, enfin mes parents, mon père et ma mère, je pense qu'ils sont au courant depuis toujours. Que j'ai pas vraiment eu besoin d'en faire un, parce que depuis que je suis toute petite, je leur disais que vraiment je préférais les filles, quoi. Ce qui était chouette avec mon père, je pense que c'est juste, je crois que lui, ça l'a toujours assez enthousiasmé, il a toujours, je crois qu'il a toujours poussé à ce que j'ai des copines ou je sais pas quoi. Du coup, Du coup, là-dessus, j'ai pas trop d'anecdotes, mais en ce qui concerne ma mère, quand j'avais un truc genre 16 ans, 17 ans, elle a intercepté les lettres de ma copine. Et un jour, elle est montée dans ma chambre et elle m'a dit que si je voulais, je pouvais aller voir un psy parce que l'homosexualité, c'était une maladie mentale et qu'elle se soignait. Et que voilà, et même si elle a jamais admis qu'elle interceptait les lettres de ma copine, elle savait très bien que je savais et vice versa, quoi. Et du coup, je crois que c'est la seule fois que elle a admis ouvertement qu'elle était au courant, que voilà. Et sinon, en ce qui concerne, en fait, moi j'ai de la famille au Maroc, et du coup, de ce côté-là, ça a été vraiment hyper violent. Parce que je me suis confiée à ma tante avec qui je suis assez proche, et en fait elle l'a, en le faisant promettre de ne pas le dire à mes autres oncles et tantes et à Annie, mon grand-père, etc. Et en fait elle a été leur dire, et du coup j'ai très bien senti le soir au moment du repas que tout le monde était hyper gêné, et je crois qu'en fait ça m'a fait bien rigoler, et c'était chouette de réaliser qu'en fait c'était eux que ça mettait mal à l'aise et pas moi. Du coup j'ai l'impression qu'en fait pour ma famille je suis un peu un objet de curiosité, et je suis un peu un... Par exemple j'ai des tantes qui sont jamais mariées et qui ont plutôt décidé de se tourner vers la religion, que ce soit vers la religion chrétienne ou musulmane. Et je pense que ces tantes-là, elles vivent un peu leur homosexualité par procuration avec moi. Enfin, un peu grâce à moi, quoi. Et du coup, ça me fait bien rigoler aussi, de voir que c'est un petit peu comme si c'était moi qui réalisais les choses qu'elle s'était jamais avouées ou des choses comme ça. Bon, un jour, j'ai foutu un coup de boule à mon cousin quand il est venu me traiter de sale gouine. Mais je sais pas si ça a un rapport avec le coming out, ça. Bah si, parce qu'en fait, le coming out, c'est un truc où ça s'est toujours fait... Genre, j'ai pas eu besoin de faire un truc, genre l'annoncer officiellement à un repas ou comme on peut se l'imaginer ou quoi, parce que en général, je le dis à une personne qui s'empresse d'aller le raconter aux autres. Et en fait, c'est chez les autres que je lis la gêne ou que je lis le truc qui fait que j'ai compris qu'ils avaient compris. Et voilà.
Ouais, c'est marrant parce que j'ai mis super longtemps à me dire moi-même que j'étais Gwyn. Enfin, ça a pris quand même un certain temps, alors que je pense que... Après, quand j'ai couché avec la première fille avec qui j'ai couché, enfin, tout m'a semblé clair et je me suis dit « Ah mais oui, mais c'était ça !» Mais je pense, vu qu'on m'avait tout le temps envoyé que j'étais un garçon manqué et tout ça, on m'avait traité de sale Gwyn pendant je sais pas combien de temps, je m'étais dit « Bah non, je serais pas Gwyn, quoi !» Et je m'étais un peu obstinée dans cette voie-là. Tout en échouant lamentablement à sortir avec des garçons, quoi, ça marchait juste pas. Et du coup, en fait, au début, après ma première copine, j'ai commencé à un peu être obligée de me définir. Et du coup, j'ai plus dit que j'étais bi, quoi, et entre autres à mes parents. Et en fait, c'est vraiment complètement débile parce que j'ai jamais été bi, enfin, je suis pas du tout bi. Mais ça me semblait plus facile, et après ça avait été un peu... Bah, je pense que je l'ai dit entre autres à cause de la pression familiale aussi, où quand justement ma mère a appris que je sortais avec une fille, elle a quand même super insisté à me dire « Ah, mais faut pas s'enfermer dans des identités, faut pas... Essaye au moins, essaye les deux, comme ça tu seras sûre. » Et moi, ça m'avait... Ouais, en fait, ça m'a fait un espèce de truc tétanisant, et j'avais dit que j'étais bi, alors que juste, j'ai menti complètement, quoi, mais que ça me semblait plus facile, et je me dis, ah, mais c'est chiant dans la vie qu'il y ait cette pression à essayer les deux pour être sûr. Et je me dis, est-ce qu'on a demandé à mon frère d'essayer de se taper un gars pour qu'il soit sûr? Bah non, on lui a pas dit ça, il est revenu avec sa copine, et au bout de la première semaine où ils sortaient ensemble, elle venait à tous les repas de famille, et voilà. Du coup, ça c'était mon anecdote. Il faut, si je pouvais encourager les gens à ne pas insister pour que les gens essayent les deux, ça serait cool.
Bah, je sais pas, moi, ma mère, quand je lui ai dit que j'étais trans, elle m'a dit ah, j'aurais préféré que tu nous annonces que t'étais enceinte. Je sais pas si c'est drôle ou c'est marquant, non?
Et toi, t'as réagi comment?
Moi, je savais pas comment réagir du tout, quoi. Enfin, genre, ok, bon, d'accord, super, quoi. Merci, maman.
Alors,
Alors on était à une réunion en fait avec le directeur d'un lieu de vie alternatif à la psychiatrie. Et du coup c'est vraiment un espèce de vieux patriarche gaucho qui parle tout le temps. Et puis il était bourré, il parle beaucoup, tout ça. Et du coup il arrêtait pas de nous répéter qu'on était super, qu'il nous aimait, tout ça. Et à un moment sa femme elle lui dit c'est bon, arrête de leur dire que tu les aimes, ça va, ils ont compris. Et du coup, lui, il sort sur son mode « Ah bah ouais, t'as raison, c'est tout, qu'il n'y a pas que des gonzesses ici, du coup, ils vont croire que je suis pédée. » Et là, ça fait un début de silence et je lui ai répondu sur le même ton « Ah bah ouais, puis d'ailleurs, moi je suis Gwyn. » Et là, du coup, ça a réussi à le faire taire, c'est ça qui était beau dans l'histoire. Et sa femme a dit « Ah bah ça, au moins, c'est dit. »
Ça, au moins, c'est dit.
Voilà, ça, c'est dit.
Alors, et nous ? On en a des anecdotes.
Eh ben, je peux commencer par moi, si vous voulez. Moi, c'était chiant parce que personne m'a cru, parce que je sortais d'une relation de 3 ans et demi avec un mec, et du coup, personne m'a cru. Et je trouve ce qui ressort de ces interviews, c'est qu'il y a vachement ce truc de légitimer cette annonce-là par le fait d'être en couple avec... elle s'en est aperçue parce que j'avais une copine ou tout ça. Et moi, j'avais pas ça. J'ai juste dit que j'étais lesbienne et comme j'avais pas de copine à l'époque, tant que j'ai pas eu de copine, personne m'a cru. Et c'était super chiant. Et surtout que je trouve ça montre vachement ce truc que le couple en général, qu'il soit hétéro ou homo, en fait, ça. Un statut dans notre société qui est que moi je trouve dégueu en fait, et que c'est pas parce que on n'est pas présentement tous les jours en train de coucher avec une fille qu'on n'est pas lesbienne ou tout ça. Et même en fait je pense qu'on peut genre se dire homo et savoir qu'on l'est bien avant d'avoir essayé ou voilà. Et du coup moi c'est ça que m'inspire comme réflexion mon coming out. Et du coup ça a été hyper long mon coming out parce que ça a pris beaucoup de temps pour que les gens me croient quoi.
Ouais, j'avais envie de parler aussi du fait que, alors c'est pas pour tous les trans, mais qu'en tout cas, on est une partie à avoir fait 2 coming out, parce que par exemple, moi j'ai fait un coming out en tant que, alors je sais plus trop comment j'ai dit, je pense, j'ai même pas dit lesbienne, j'ai dû dire, vous voyez, je parle de coming out avec ma famille, un truc de dire, ah oui, bah vous voyez, j'aime aussi les filles, ou un truc comme ça, là. Et puis après de revenir un an ou 2 ans plus tard et dire en fait je suis trans. C'est un truc que tu fais 2 fois. Et ce qui est assez marrant en tout cas de témoignages de potes là, c'est que des fois les parents du coup ils finissent pas de dire non mais en fait on t'acceptait complètement en tant que lesbienne, tu peux rester lesbienne, t'as besoin de transitionner, je veux dire on t'accepte complètement, alors que ça s'est jamais produit qu'ils acceptent complètement, j'ai des raisons, jamais tenu en compte des trucs de réalité sociale, mais que d'un coup il y a un truc c'est vraiment pire quand même, enfin ou dans leur tête ça fait un truc que c'est un cap au-dessus là de transitionner, alors finalement on préfère l'option orientation sexuelle. C'est moins visible, je pense aussi.
Mais je pense qu'il y a des parents où ils ont un raisonnement totalement inverse de se dire « Ah, mais en fait, finalement, ça va parce que, ok, ma fille va devenir un mec ou un truc dans le genre, mais au moins, ce sera un mec hétérosexuel, quoi. Ce sera pas une sale queen, quoi. » Enfin, je pense qu'il y a des parents aussi qui arrivent à se faire ce raisonnement-là dans leur tête. Voilà.
Et moi, j'avais une histoire que je trouvais chouette qu'on m'a racontée. C'est une histoire de 3 sœurs. Et dans les 3 sœurs, il y a 2 Gwyn et une Hétéra. Et du coup, elles ont décidé de faire leur coming out collectivement. Et du coup, un jour, elles se sont dit, OK, on en parle à nos parents. Donc, elles sont arrivées les 3. Elles ont dit à leurs parents, bon, on a quelque chose à vous dire et tout, d'une manière un peu solennelle, tout ça. Et elles les ont rassemblées, voilà. Et elles ont dit, il faut qu'on vous dise que parmi nous, il y a une Hétéra. Voilà. Je trouvais ça chouette comme façon d'annoncer ce truc et de renverser un peu ce truc que c'est toujours les transpédagouines. Enfin, voilà. Qui doivent passer par là. Et du coup, de le renverser et dire, il y a une Hétéra.
Peut-être on pourrait s'écouter un morceau de musique. D'abord tu. Oui.
D'abord, je vais lire un petit texte.
Pardon. Petit micmac dans le programme, désolé.
Alors, justement, ce texte, je vais le lire, puis peut-être après je dirai pourquoi il m'a plu. Voilà, j'aurais qu'à faire ça. Alors, c'est un texte qui est tiré de Bang Bang. Bang Bang, qui est un zine de 100% pur PD, de Pédale Radicale, qui n'existe plus aujourd'hui. Enfin, on peut récupérer les anciens exemplaires, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, il n'y a pas de nouvelle parution. Et là, c'était le Bang Bang numéro 4, qui est entièrement sur le coming out. Donc, ce texte, il s'appelle Lettre à mon père. Voilà. Est-ce parce que je me suis mis dernièrement à réfléchir à mon coming out que j'ai fait il y a 5 ans? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que j'ai écrit à mon père, le patriarche, ce que je n'avais jamais fait. J'ai voulu publier cette lettre parce que ça m'aide, me fait du bien, et parce que c'est aussi la lettre d'un PD à son père. Salut. Il m'a fallu pas mal de temps pour décider d'écrire cette lettre. Du temps que j'ai utilisé pour la réflexion surtout. La dernière fois que l'on s'est vu, je t'ai dit qu'il y avait un malaise dans notre relation que j'avais besoin de verbaliser. Ton étonnement signifiait d'ailleurs que tu ne l'avais pas perçu, ce qui ne m'étonne pas trop finalement. Tu as bien dû percevoir quand même que notre relation n'est pas formidable, pour ne pas dire quasi inexistante. Sinon au travers des liens de filiation qui unissent traditionnellement et de façon bien pensante une enfant à ses parents. Et qu'il en a toujours été ainsi. Oui, je me pose des questions sur la valeur et la portée des liens soi-disant d'amour qui unissent les parents et les enfants. Oui, je me demande ce que veut dire cet amour, ce qu'il représente pour l'une et l'autre partie. En ce qui nous concerne, je ne souhaite pas ici m'étendre sur la relation que nous avons eue dans le passé. Bien que je ne crois pas que l'amour d'une parente pour son enfant se borne à lui assurer un bon avenir professionnel, un toit et de quoi bouffer tous les jours. En schématisant, c'est un peu ainsi que je l'ai vécu. Oui, aujourd'hui, je veux nuancer cet amour que tu dis avoir pour moi. Il ne s'agit pas de dire « je t'aime » et puis basta, on ne change rien. Mais ce qui m'intéresse de discuter, ce sont les propos que tu as tenus sur l'homosexualité, puisque c'est de ça dont il s'agit. Un soir de l'été dernier, alors que je vous avais invité, maman et toi, à venir manger chez moi, je ne sais pas si tu te souviens, mais pour te rafraîchir la mémoire, je te cite presque mot pour mot. L'homosexualité est une maladie sociale qui participe à la déchéance actuelle de la société. Pour moi, il est évident que ta soi-disant tolérance envers mon homosexualité, tu penses que le fait de ne pas m'avoir foutu à la porte te rend tolérant, tolérance que je considère d'ailleurs comme un autre aspect de l'oppression homophobe de la société. Donc, il est évident que ta soi-disant tolérance envers mon homosexualité n'enlève rien au caractère fasciste de ces paroles. Bien sûr, je sais que tu penses que cette vision est extrémiste, et c'est bien là le problème, mais je ne me justifierai pas sur ce point. Après cette soirée, tu as fait comme si de rien n'était, comme si rien d'important n'avait été dit ce soir-là. Et moi-même, je n'ai pas su réagir sur le moment. Aujourd'hui, je trouve la force, et j'espère qu'après cette lecture, tu auras compris que moi, je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Ma réaction première a donc été l'éloignement, comme tu as sûrement dû t'en rendre compte. Aujourd'hui, je ne supporte plus le fait que tu ne sembles pas avoir conscience des causes de cet éloignement, ni du mal que cela peut faire d'entendre des mots pareils, qu'ils soient de toi ou de quelqu'un d'autre. La seule différence, c'est que si quelqu'un d'autre m'avait dit ça chez moi, je l'aurais insulté, lui aurais craché à la gueule et je l'aurais foutu à la porte. Je ne peux pas faire ça en ce qui te concerne et c'est pour ça qu'une telle situation ne doit pas se représenter. Tes paroles ne sont malheureusement que le reflet de la pensée moralisatrice et profondément homophobe, si répandue dans notre société démocratique et égalitaire. Cette pensée est responsable du mal-être, des dépressions, de la solitude des personnes qui, comme moi, ont une sexualité différente. Elle est responsable de nombreux séjours en hôpitaux psychiatriques et de suicides. À cause de tout ça, entre autres, elle m'est insupportable, de qui que ce soit qu'elle vienne. Il est évident que je ne peux pas entretenir de relations avec des personnes qui pensent ainsi. Et tu auras compris que nos liens biologiques ne changent rien à ça. En fait, que tu m'aies dit ces mots m'a au moins permis de me rendre compte de tout ça, et en écrivant cette lettre, de clarifier certaines choses pour moi, puisque c'est surtout pour moi que je le fais, vu que je ne souhaite plus que notre relation s'améliore. Il est trop tard. Je ne fais que dresser un constat. Et ce que je constate, c'est qu'il faut arrêter de se voiler la face. Tu n'aimes pas les PD ? Comment peux-tu dire que tu m'aimes ? Tu devrais te poser la question. Voilà. J'espère que tu as compris que cette lettre n'est pas accusatrice et ne vise pas à te culpabiliser. J'ai déjà dépassé ce stade. Elle vise plutôt à t'expliquer pourquoi je considère que nos liens ne m'apportent rien. Cette lettre te paraîtra sûrement dure et te fera peut-être du mal, mais ce n'est pas son objectif. Et elle était nécessaire pour mon bien-être à moi et pour me débarrasser de mes vieux fantômes. Elle n'a pas été facile à écrire, mais au moins maintenant tu sais ce que je pense sur notre relation et tu ne pourras plus faire comme si tu ne savais pas. Cette lettre n'appelle évidemment pas de réponse. Voilà. Et un des trucs qui m'a donné envie de lire cette lettre, c'était justement sur ce truc de des familles tolérantes, comme c'est écrit dans le texte, et que moi j'ai entendu plusieurs fois des gens dire ah mais c'est bon, genre t'as pas été jeté à la porte, ta famille elle est tolérante ou je sais pas quoi, et qu'en fait la tolérance c'est pareil, moi je m'en fous, enfin je veux dire j'en veux pas en fait, je veux pas être toléré, et d'avoir une famille tolérante où notre réalité sociale elle est toujours pas prise en compte, ou en tout cas jamais on me pose des questions sur qui je suis, sur comment ça va dans ma vie parce que je suis trans, parce que je sais pas quoi, et ben ça fait que c'est juste pourri comme lien, et que ça mine en fait, parce que c'est toujours le même constat que qu'en fait, il y a de la place que pour les hétéros dans cette famille. Et voilà, c'est une des raisons pour lesquelles il m'a touché.
Bon, maintenant, on peut s'écouter un morceau de musique. Alors, on va s'écouter Section d'Homo. Je ne sais pas c'est quoi le titre. Désolé, je suis pédé ou un truc comme ça. Et en fait, c'est une parodie. Ça fait référence à un morceau de Section d'Assaut, qui est un groupe de rap qui a été hyper connu pour récemment pour son homophobie. Enfin, ses paroles homophobes. Et du coup, voilà, il y a des PD assez marrants qui ont fait une parodie. Et du coup, voilà, Section d'Homo.
Partir et m'isoler. Maman, comment te dire, je suis désolé. C'est pas conseillé de vivre en cité avec une vie sexuelle décalée. Avec les filles, crois-moi, j'ai essayé. Mais s'il y a pas de poils, j'aime pas lécher. Je vais tout plaquer. J'aime que les hommes, je finis par l'avouer. Et je me suis fait griller dans le marais. Toujours bronzé, sourcils épilés. Papa, maman, les gars, désolé. Je peux plus cacher, j'avoue, je suis pédé. Et je me suis fait griller dans le marais. Toujours bronzé, sourcils épilés. Papa, maman, les gars, désolé. Je peux plus cacher, j'avoue, je suis pédé.
Moi aussi, les frères, je suis pédé. J'ai rejoint les miens dans le marais. Ma vie n'est pas facile, depuis que je me suis fait tatouer des sourcils. Ma femme en vrai c'est un très beau Sénégalais. On a même décidé bientôt de se paxer. Moi j'aime le rose, les cils, le gloss. Maman désolé mais j'aurai jamais de gosse.
Et je me suis fait griller dans le marais. Toujours bronzé, sourcils épilés. Papa, maman, les gars, désolé. Je peux plus cacher, j'avoue, je suis pédé. Et je me suis fait griller dans le marais. Toujours bronzé, sourcils épilés. Papa, maman, les gars, désolé. Je peux plus cacher, j'avoue, je suis pédé.
Pardonne-moi grand-mère s'il te plaît. La vaseline que je t'ai prise, je te la rendrai. T'es bien en France, tu sais, c'est pas facile. Faut poursuivre et achat de fossiles. Désolé de balancer mes habits et pédé. D'ailleurs, hier soir, ce mec m'a bien défoncé. Désolé pour sa famille. Ils auront engendré pas une belle fille.
Et je me suis fait griller dans le marais. Toujours bronzé, sourcils épilés. Papa, maman, les gars, désolé. Je peux plus le cacher, j'avoue, je suis pédé. Et je me suis fait griller dans le marais. Toujours bronzé, sourcils épilés. Papa, maman, les gars, désolé. Je veux plus le cacher, j'avoue, je suis pédé. Pédé.
Voilà, c'était Section d'Homo. On l'a déjà passé, mais bon, on avoue, on adore, voilà. Alors, maintenant, en fait, je voudrais lire un texte qui est aussi extrait du Queer Nation Manifesto que vous pouvez trouver sur infocus.net. Et du coup, c'est un texte d'une lesbienne qui écrit aux autres lesbiennes. Et du coup, ça s'appelle « Où êtes-vous, mes sœurs ?»« Où êtes-vous, mes sœurs ? L'invisibilité est notre responsabilité. » Je porte mon triangle rose partout. Je ne baisse pas la voix en public lorsque je parle de sexe ou d'amour lesbien. Je dis toujours aux gens que je suis Gwyn. Je n'attends pas qu'on me questionne sur mon petit ami. Je ne dis pas que ce ne sont pas leurs oignons. Je ne fais pas cela pour les hétéros. La plupart d'entre eux ne savent même pas ce que le triangle rose symbolise. La plupart d'entre eux ne pourraient pas s'en foutre plus que ma petite amie et moi, nous sommes complètement amoureuses ou nous nous disputons dans la rue. La plupart d'entre eux ne nous remarquent pas, quoi que nous fassions. Ce que je le fais pour atteindre d'autres Gwyn. Je le fais parce que je ne veux pas que les autres lesbiennes pensent que je suis une fille hétéro. Je suis out tout le temps. Partout, parce que je veux t'atteindre. Peut-être que tu me remarqueras, peut-être qu'on commencera à discuter, peut-être qu'on deviendra amis. Peut-être que tu ne diras pas un mot, mais nos yeux se rencontreront et je t'imaginerai nue, transpirante, la bouche ouverte, le dos cambré alors que je te baise. Et nous serons heureuses de savoir que nous ne sommes pas seules au monde. Nous serons heureuses parce que nous nous sommes trouvées sans dire un mot, peut-être juste pour un instant. Mais non, tu ne porteras pas de triangle rose sur ce revers de linge. Tu ne croiseras pas mon regard si je flirte avec toi dans la rue. Tu m'évites soigneusement parce que je suis trop out. Tu me punis dans les bars parce que je suis trop politique. Tu m'ignores en public parce que j'attire trop l'attention sur mon lesbianisme. Mais ensuite, tu veux que je sois ton amante, tu veux que je sois ton amie, tu veux que je t'aime, te soutienne, me batte pour notre droit d'exister. Où êtes-vous donc ? Tu parles d'invisibilité, et puis tu te retires chez toi pour faire ton nid avec tes amantes, ou tu te saoules avec des potes dans un bar et trébuches dans un taxi vers ta maison, ou tu t'assois silencieusement et poliment pendant que ta famille, ton patron, tes voisins, les fonctionnaires nous dévisagent et nous défigurent, nous tournent en ridicule et nous punissent. Puis chez toi, de nouveau, tu as envie de crier. Puis tu adoucis cette colère avec une relation, ou une carrière, ou une fête avec d'autres Gwyn comme toi. Et tu te demandes toujours pourquoi on ne se trouve pas, pourquoi tu te sens seule, en colère, aliénée. Levez-vous, réveillez-vous mes sœurs, vos vies sont entre vos mains. Quand je risque tout pour être out, je prends ce risque pour nous deux. Quand je risque tout et que ça marche, ce qui arrive souvent si tu essayais, j'en bénéficie et toi aussi. Quand cela ne marche pas, j'en souffre et toi non. Mais tu ne peux pas attendre que les autres Gwyn rendent le monde safe pour toi. Arrête d'attendre un meilleur futur plus lesbien. La révolution pourrait déjà être là si on l'a commencé. Où êtes-vous, mes sœurs ? Je vous cherche, je vous cherche. Comment se fait-il que je ne vous vois que le jour de la Gay Pride ? Nous sommes out. Putain, où êtes-vous ? Voilà. Ben, peut-être on voulait écouter un morceau de musique qui était... Hein ? Ah, bon, tant pis. Ok, ben, dans ce cas, on va pas s'écouter ce morceau de musique-là. Ben, du coup, genre, peut-être je peux dire pourquoi ce texte je voulais le lire. Ben, en fait, je pense que la première fois que je l'ai lu, il m'a beaucoup touchée parce que je trouve que l'invisibilité des lesbiennes, c'est un truc qui est quand même. C'est un truc qui me touchait beaucoup parce que, en fait, la visibilité de la culture gay et des gays en général, elle est beaucoup plus forte que la culture, les lieux lesbiens et la visibilité des lesbiennes, même à la télé, dans la culture, tout ça. Et que du coup, en fait, c'est vrai que le jour de la Gay Pride, on en voit plein et que, genre, je pense que, genre, ça fait vraiment du bien de se dire qu'on n'est pas seul et je me suis toujours demandé pourquoi entre Gwyn, quand on se reconnaissait dans la rue ou quand on avait des petits indices tout ça, on se disait pas juste bonjour en fait. Enfin, moi j'aurais trop envie de faire ça, j'aurais trop envie de dire bonjour à toutes les Gwyn que je capte dans la rue parce que en fait je pense que c'est vraiment une stratégie de ce monde hétéronormé qu'on n'ose pas faire ça entre nous en fait. Parce qu'en fait, si on commençait à se capter, à se dire bonjour juste comme ça, juste parce que, ah tiens, j'ai vu que t'étais Gwyn et moi aussi je suis Gwyn, j'ai qu'à juste dire bonjour et on pourrait commencer à se parler, eh ben, c'est sûr que le monde, il serait vachement différent, en fait, et ce serait vraiment la révolution si c'était comme ça. Et du coup, voilà, ce texte, il me faisait penser à toutes les fois où, chaque fois que je vois une Gwyn dans la rue, j'ai envie de lui parler juste parce qu'elle est Gwyn et qu'en fait, il y a ce truc de gêne socialement, tout ça, qui nous empêche de le faire alors que ça serait vraiment révolutionnaire de commencer à faire ça. Je pense que ça serait le premier pas pour plein de choses. Voilà. Donc si vous me voyez dans la rue, dites-moi bonjour.
Ok. Pour rebondir à ce que tu viens de dire, c'est que moi j'ai l'impression qu'il y a tout un moment où, même si c'était pas des trucs effectivement de se dire bonjour ou tout ça, quand j'avais plus une allure de Gwyn que maintenant, il y avait quand même des trucs d'échange de regards qui marchaient. Enfin, en tout cas pour moi, ça me faisait vachement un truc d'arriver à comme capter des Gwyn et d'avoir cet échange de regards où voilà, on sait mais ça s'arrêtait là, un truc comme ça. Et voilà, et ça par exemple, bah maintenant c'est mort, mais.
Oups. Ouais. On peut vraiment pas écouter de musique ?
Non, pas celui-là, mais sinon
il faut l'application. Ok, bah vas-y, on va. Bah, on va faire une petite pause musicale là, et puis on revient après pour parler
l'outing.
De l'outing, une arme politique. Et ensuite, on fera l'agenda. Voilà. Ah.
Ton 31, la chemise blanche, les mocassins, le pantalon en velours vert, ça plaira sûrement à ta mère. T'as lu l'horoscope en venant, c'est le moment pour les Verseaux de vous confier à vos parents. Dommage que tu ne sois pas Verseau. Tu attendras la fin du repas pour leur parler un peu de toi. Coming out, comme il dit en anglais. Coming out, quoi qu'il dise en français. Ça sonne vraiment pas mal, ça s'annonce pas trop mal. Ça leur a fait vraiment plaisir de pouvoir manger avec toi, abonné aux vieux souvenirs. Ils se sentent un peu seuls parfois. Ton père collectionne le silence, ta mère les caniches en faïence. Cette année pour le réveillon, ils s'offrent de tranches de saumon. Tu attendras qu'ils soient un peu moins morts pour leur parler de Victor.
Victor.
Non, c'est normal.
Oh, ok. Et donc voilà, c'était les Fatal Picard avec Coming Out. Voilà, c'était pas non plus de la grande culture musicale, mais bon, c'était marrant.
Et maintenant, du coup, on enchaîne sur l'outing. Tu veux bien nous parler de l'outing ?
Alors, qu'est-ce que c'est que l'outing ? Alors, ben, l'outing, c'est le fait de révéler contre sa volonté l'homosexualité d'une personne. Et c'est souvent pour dénoncer une divergence entre la vie de cette personne et son discours public. Et en fait, l'outing, c'est une pratique qui est née en Angleterre en 1990. En fait, c'était les dignitaires de l'église anglicane qui avaient des positions homophobes et qui se sont exprimés publiquement sur leur homophobie et qui ont été contraints en fait de révéler leur homosexualité parce qu'ils étaient soumis à du chantage. Et du coup, c'est ça la naissance de l'outing. Et un an plus tard, ACT UP Paris a admis dans ses statuts ou un truc comme ça ou un congrès que l'outing pouvait légitimement faire partie de ses méthodes d'action. Et en fait, en France, il n'y a jamais eu d'outing selon nos recherches. Hein. Mais par contre, en 1999, ça a failli arriver. Donc en fait, c'est le 1999, c'est le moment du débat sur le PAX. Et en fait, il y a eu une manif anti-pax le 31 janvier 1999 qui était horrible, où il y avait des slogans d'un autre âge, par exemple les PD au bûcher. Et à ce moment-là, ACT UP Paris a menacé de outer un député donc qui est homo et qui se trouvait à cette manifestation anti-pax. Mais il se trouve qu'ils l'ont pas fait. En fait, c'est sans doute pour des raisons financières, c'est-à-dire que je pense qu'à l'époque, ACT UP, c'était pas une association aussi riche que maintenant. Même si je veux pas dire qu'ACT UP est trop riche ou un truc comme ça, c'est pas du tout ce que j'essaye de dire. Mais en tout cas, ils encouraient 300 000 francs d'amende et du coup, ils se sont dit que plutôt pas. Mais en fait, on les aurait poursuivis en justice pour révélation de la vie privée, tout ça. Et par contre, ils l'ont pas fait du coup. Mais par contre, ils ont écrit un texte très intéressant, du coup, toujours sur la l'outing et sur pas pour, pourquoi ils l'ont pas fait, mais sur pourquoi ils avaient envie de le faire et pourquoi c'est révoltant que ce qui s'est entendu dire à ce moment-là sur l'outing, parce qu'en fait comme ACT UP a menacé de le faire, après les journaux se sont un peu déchaînés sur ce qu'ils en pensaient. Et du coup ce texte s'appelle « Votre vie privée contre la nôtre » et je vais le lire maintenant. « Votre vie privée contre la nôtre. Délation, inquisition, pratiques policières, terrorisme, totalitarisme, fascisme, etc. La presse n'aura pas manqué de vocabulaire pour dénoncer notre projet d'outing. Nous nous sommes déjà exprimés sur les raisons peu morales en vérité qui nous ont poussés à y renoncer. La question qui nous intéresse aujourd'hui est que personne dans l'extase de l'indignation ne semble vouloir se poser est la suivante. » Comment se fait-il que l'outing puisse être une arme? Comment se fait-il que l'annonce de l'homosexualité puisse même constituer une menace? Tout ce que ces articles dénoncent, c'est une violence. Tout ce que ces articles évitent, c'est le ressort de cette violence. Pour considérer que l'outing peut nuire à celui qui en est l'objet, il faut considérer soit que l'homosexualité est infâme, soit que sa révélation est dangereuse. Ceux qui s'indignent pressentent donc sans vouloir l'analyser la pression sociale que subissent les gays et les lesbiennes. Il prête à l'outing une violence qui lui préexiste, celle qui oblige par exemple un député homosexuel à se laisser insulter par son électorat dans la rue et par ses collègues à l'Assemblée, qui l'oblige à entendre comme nous les rêves de cendres des manifestants anti-pax, sales PD brûlés en enfer ou les PD au bûcher, et à entendre mieux que nous le petit bestiaire illustré de certains députés, les homosexuels comparés à des animaux de compagnie, François Vanson, RPR, ou à des zoophiles, Jacques Maillard, RPR, voués à signer leur pax dans les services vétérinaires, Dominique Dor, UDF, ou à être stérilisés, Pierre Lelouch, RPR, sans pouvoir riposter. Ce silence imposé, nous le connaissons bien, et pour en avoir fait l'expérience à un moment ou à un autre de notre vie, nous savons bien qu'il ne s'agit pas là de l'exercice d'une liberté. À ce titre, parce que nous partageons avec ce député une épreuve de l'adversité, l'outing est plus sympathique au sens propre que l'invocation effarouchée du respect de la liberté individuelle. Ne soyons pas hypocrites néanmoins, si la violence de l'outing n'est pas dans l'outing, il n'en possède pas moins une cruauté propre, celle de donner des noms. C'est probablement cette forme suprême de franchise qui a conduit nos détracteurs, raidis d'effroi, à traiter d'inquisitorial une association qui refuse qu'on promette impunément le bûcher au PD et de fascisant un groupe qui porte le triangle rose. Et pourtant, l'impossibilité de nommer est au cœur du problème. Aucun de nos détracteurs ne s'est en effet interrogé sur cette embarrassante dissymétrie du droit. Il n'est pas possible de dire d'une personne qu'elle est homosexuelle. En revanche, il est possible de dire des homosexuels qu'ils sont des animaux. Si nous assumons pleinement la violence nominale de l'outing, c'est précisément parce que, en l'état actuel des lois, on peut tout dire des gays et des lesbiennes, sauf leur nom. Tant qu'un délit d'incitation à l'homophobie ne sera pas institué, il sera possible de nous insulter tous sans insulter personne. Juste une parenthèse, en fait maintenant il y a des lois qui font que dire des propos homophobes c'est interdit. Bref. L'hypothèse de l'outing, vérifiée par l'indignation qu'il a suscité, est qu'une défense effarouchée de la vie privée s'accommode fort bien d'une homophobie ordinaire pourvu qu'elle soit générique. Les deux discours peuvent d'ailleurs être tenus par la même personne. Emmanuel Leroy-Ladurie peut ainsi, sûr de son bon droit, nous accuser d'être les nouveaux délateurs quelques mois après avoir affirmé que le fait de confier des enfants à des couples homosexuels masculins ne manquera pas d'accroître encore les risques pédophiliques qui sont déjà en plein essor, dans le Figaro du 19 octobre 1998. Il peut ainsi insulter les homosexuels sans risque, ni médiatique, ni juridique, tant que l'objet de son insulte reste abstrait. C'est le fond du problème. En matière de vie privée, l'État n'a jamais été un allié. Nous appartenons avec d'autres à ces populations dont la vie privée, loin d'être protégée, est l'objet d'intrusions fréquentes de la part des administrations. Malades du sida contraints pour conserver l'allocation adulte handicapé de faire état de leurs sensations physiques les plus menues, fatigue, troubles nerveux, etc. Homosexuels obligés de subir une enquête des mœurs, une enquête de mœurs menée par les DAS pour accéder aux droits pourtant reconnus de l'adoption individuelle. Allocataires du RMI soumis aux visites domiciliaires des contrôleurs de caisses d'allocation familiale, sans papier tenu pour obtenir un titre de séjour, de produire les preuves et le détail de leur vie privée et familiale, etc. Il a bien fallu résister à cette volonté de savoir, d'abord individuellement avec de petites stratégies de résistance, mentir, dissimuler, tricher, pour obtenir ou conserver de simples moyens d'existence. puis collectivement avec plus d'assurance. Puisque la puissance publique s'autorise à savoir sur nos vies privées, nous avons été obligés de mettre nos vies privées sur la place publique. Nous appartenons à ce titre à un plus large mouvement de visibilité. Depuis quelques années, les populations soumises à ces petits contrôles d'État se mobilisent sur le mode de la sortie de l'ombre. Si nous sommes exposés en tant que séropos, PD ou Gwyn comme d'autres, s'exposent en tant que chômeurs, précaires ou sans papier, c'est que l'épidémie du sida ne nous en a pas laissé le choix. Puisque la vie privée d'un malade se lit sur son visage, nous avons été obligés d'affronter famille, employeur, assureur ou administrateur pour obtenir les droits adéquats à nos vies et interdire qu'on statue sans cesse sur elle de haut pour inverser les forces qui nous maintiennent dans un privé où il est commode de nous gouverner. L'outing s'inscrit dans cette stratégie d'occupation avec des visages et des noms d'un espace public habitué à parler de nous sans nous. Visiblement, le tracé de la frontière publique-privée n'est pas le même pour tous, en droit comme en fait. À cet égard, l'outing est une stratégie de pauvre, pauvre en droit, là où d'autres sont mieux lotis. La vie privée qui préoccupe tant nos détracteurs, c'est celle des personnages publics, bien protégés par la loi. Le paradoxe de l'outing, c'est qu'il est un moyen de défense de nos vies privées, auto-organisées, puisque l'État ne nous en garantit pas d'autres. Même suspendu dans son exécution, nous parions sur son efficacité. Voilà, et ça c'était un texte TikTok Paris publié dans Le Monde daté du samedi 26 juin 1999. Voilà.
Ok, et on arrive un peu vers la fin de cette émission. Alors moi je voulais très vite lire un appel à contribution pour un zine sur le coming out. Alors si tu es lesbienne, Gwyn, PD, PD et ou trans, ta vie nous intéresse. Le coming out est une étape parfois marquante, mémorable et angoissante de nos vies de lesbiennes, Gwyn, PD et ou trans. Parfois ça se passe sans qu'on ait vraiment eu le temps de comprendre comment. Parfois ce n'est pas nécessaire parce que le fait qu'on soit lesbienne, Gwyn, PD et trans s'est posé comme une évidence dès notre enfance. Parfois on attend des années avant d'en parler, parfois ça passe comme une lettre à la poste et rien ne change vraiment dans notre vie. Parfois c'est difficile et ça a un impact sur une très longue période de notre vie. Parfois on est rejeté, parfois on se rapproche, parfois on doit s'y reprendre plusieurs fois. Parfois ça ne change rien parce que les autres comprennent, parfois ça ne change rien parce que les autres ne comprennent pas. Parfois ça change tout parce que les autres comprennent, parfois ça change tout parce que les autres ne veulent pas comprendre. Parfois on se transforme en carpette de peur d'être rejeté. Parfois on se transforme en Xena pour ne pas se laisser faire. Parfois on demande aux autres de nous accepter, parfois on ne leur laisse pas le choix. Parfois on n'a même pas besoin de faire de coming out parce que c'est marqué sur notre gueule. Parfois on doit en faire tous les jours parce que les autres ne comprennent vraiment rien à qui on est. Parfois c'est dans un repas de famille, parfois c'est au lit, parfois c'est sur la plage, parfois c'est au téléphone, parfois c'est par lettre recommandée. Parfois c'est à la Pride, regardez la télé ce soir, je passe au JT régional. Parfois c'est de très 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 loin, parfois c'est juste à côté. Parfois c'était il y a des années, parfois c'était hier, parfois ce sera demain. Parfois c'est jamais le bon moment, parfois on finit toujours par craquer. Le but est de collecter une variété de témoignages pour en faire une brochure retraçant diverses expériences de coming out, réussies, ratées, rigolotes, difficiles, trash, rassurantes, tristes, refaites, etc. Pour rendre compte de cette partie de nos vécus de lesbiennes, Gwyn, PD et ou trans. L'idée étant de donner de la visibilité à nos histoires parfois heureuses et parfois malheureuses parce que personne ne le ferait à notre place et certainement pas les tenanciers de la culture et de l'histoire straight. Alors, pour envoyer vos contributions, il suffit de contacter un bruit de grelot. C'est tout attaché. Un bruit de grelot. Donc, UNBRUITDEGRELOT @herbefolle.org. Herbefolle, c'est HERBESFOLLES.org. Voilà. C'était la petite annonce.
L'agenda de la semaine.
De l'actualité de ce dimanche.
Le 28 juin,
le 30 mars,
le 3 décembre.
Prochainement.
Alors, dans les agendas, moi j'ai comme agenda, le 28 mai, il y aura une soirée de soutien à Saint-Étienne, à la plage, qui est un squat qui se trouve au 86 rue de la Sablière. Et c'est une soirée de soutien à un trans qui est en ce moment dans une situation compliquée, et du coup, qui a besoin de thunes et tout ça.
Et moi j'ai deux infos rapidement, c'est l'une c'est le MLF, le Middle Gender Love Festival 2011. C'est deux jours, le 27 et le 28 mai à Lyon. Le 27 il y a un concert le soir au Sonic. Le Sonic c'est 4 Quai des Étoiles dans le 5e. C'est Scream Club et Electrosexual, c'est pour l'anniversaire du magazine Hétéroclite. Le samedi soir, il y a aussi un autre concert, toujours au Sonic. Enfin, d'abord un apéro sexe, en fait, et après un concert avec Arton, Electrosexual et MC Sound Alive. Et surtout, l'après-midi, le samedi, à 14h, il y a une table ronde sur transidentité et féminisme, organisée par Chrysalide. Et donc, c'est au carré 30, 12 rue Pizet, dans le premier. Et dernière info, on avait parlé pendant, enfin, quand on avait fait l'émission sur les assises de la prostitution, il y a un mois et demi, je crois. Donc, il y a un projet de loi sur la pénalisation des clients des travailleuses du sexe. Et donc, il y a une manifestation le 2 juin, c'est à Paris, à 14h, départ Place Pigalle. Voilà, un rassemblement contre le projet de pénalisation des clients.
Ok, et ben
merci d'avoir été avec nous, on se quitte assez vite et à dans 2 semaines.
Ouais, salut.
Salut.
Salut.